Alors, j'ai envie de rebondir, puisque j'ai des enfants, j'ai envie de rebondir sur l'enfant. En fait, l'enfant, dans sa fragilité, peut nous ouvrir le regard, hein, le cœur, hein, nous montre notre propre fragilité. Il est le premier pauvre, hein, le premier fragile, que le Seigneur met dans nos bras pour nous apprendre à aimer avec un grand A. Le Seigneur souligne la fécondité en fait de la fragilité de l'homme dans son incarnation.
Respecter la vie humaine, c'est le 9e numéro. Revient donc à prêter vraiment attention à autrui. Jacques, quelle attention négligée à autrui promouvoir avec une attention spécifique aujourd'hui?
Alors, cette question, oui, quelle attention négligée à autrui promouvoir? Quelles sont les attentions que nous négligeons en général à autrui? Alors, il me semble que les attentions les plus négligées sont celles qui sont relatives aux plus petits, et je rejoins Chantal, aux plus fragiles, aux plus démunis aussi, car il n'y a pour eux aucun groupe de pression. Ils sont défendus par personne. Donc s'il y a vraiment des personnes négligées, ce sont bien eux. Alors quels sont ces plus fragiles? Ben, ce sont les personnes seules et vulnérables. Ce sont, tu as raison Chantal, les plus petits, mais aussi les plus âgés. On parle de l'euthanasie. Les plus âgés sont aussi des gens qui sont vraiment à respecter. Les exclus, les malades délaissés. Et les migrants, bien sûr, qui viennent nous demander de l'aide et qu'on rejette en dehors de notre Europe et qu'on laisse mourir en mer. Alors il faut savoir, je crois, regarder dans les programmes de nos candidats à l'élection présidentielle ceux qui sont sensibles à toute cette vulnérabilité que nous négligeons. C'est le principe du bien commun. On doit toujours commencer, c'est ce qu'on appelle l'option préférentielle pour les pauvres, on doit toujours commencer par regarder ce qu'on fait aux plus pauvres et commencer par aider les plus pauvres. On est sûr ainsi de n'oublier personne.
Troisième titre, c'est « Promouvoir la liberté, l'égalité et la fraternité ». C'est un thème qui nous est familier. Alors, au numéro 10e, nos pères évêques écrivent « La communauté humaine n'est pas une création du politique, mais elle lui préexiste. Le politique est au service de cette communauté et lui permet d'accomplir ce pourquoi il est fait. » Alors, je ne sais pas, Jacques ou Chantal, comment nous situer entre surestimation et sous-estimation du politique?
Alors, sous-estimer le politique, me semble-t-il, c'est se résigner à accepter que le monde soit dirigé par la violence, la haine, l'égoïsme, l'individualisme, le chacun pour soi, la loi du profit et celle du plus fort. Donc on a besoin du politique. Mais au sens noble du terme politique, c'est-à-dire de celui qui doit veiller au respect de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Mais surestimer le politique, c'est aussi dangereux, parce que ça peut revenir à dire que tout dépend de l'État et à ne rien faire, et que nous ne sommes finalement responsables de rien. Et aussi, ça peut vouloir dire qu'en le sous-estimant, on peut tout accepter de lui, y compris la restriction des libertés de chacun par souci de sécurité ou par cette fameuse numérisation qui exclut beaucoup de monde. Donc je crois qu'il ne faut ni surestimer ni sous-estimer le politique, mais le placer à la juste place qu'il doit avoir, c'est-à-dire le respect des libertés, de l'égalité, de la fraternité.
Alors comment le respect de la loi trouve-t-il sa place dans la dynamique de la vie chrétienne? Bernard estime que le respect de toute vie trouve sa justification car elle est à sa source et son aboutissement en Dieu, mais un Dieu qui est Père. Donc la dimension spirituelle de la vie, c'est cette prégnance de la, voilà, prégnance de la capacité de l'homme à dépasser, transcender les choses, les ouvrir au sens, à la beauté, à l'aspiration d'un ailleurs ou d'un au-delà. Voilà. Alors,
Chantal.
Oui, oui, le dernier titre, c'était pour cette première émission, le dernier titre, c'était « Les religions, une chance pour notre société en quête de sens ». Voilà. Parmi les libertés fondamentales, le Conseil d'État l'a rappelé récemment, à plusieurs reprises figure la liberté religieuse. Alors, la question qu'on peut se poser...
Excuse-moi, Barthélémy, t'es en dehors du temps. Hein.
Voilà.
Mais ce qu'on peut faire, c'est, voilà, c'est faire une troisième émission. Si on peut le découper en trois.
C'est déjà coupé, c'est tout ce qu'on dit là.
Non, oui. Non, c'est pas coupé. Là, je le coupe.
Ah, ouais, tu le coupes.
Voilà. Mais je peux faire après, je fais du montage. Mais si vous voulez, on fait un 30 minutes. Je peux vous rajouter 5 minutes.
Voilà. Ah, ok, ça, on fait alors. Le quatrième titre proposé par nos pères évêques, dont ce thème principal qui est l'espérance ne déçoit pas, c'est les religions, une chance pour notre société en quête de sens. Alors, il commence par écrire au 13e numéro. Parmi les libertés fondamentales, le Conseil d'État l'a rappelé récemment, à plusieurs reprises, figure la liberté religieuse. La laïcité à la française, structurée par une jurisprudence qui a toujours promu le respect, l'équilibre et le dialogue, ne peut être sacrifié sur l'autel de la peur. Alors, la question que nous pouvons nous poser, comment comprenons-nous la liberté religieuse?
D'abord, je pense que, comme nos pères, que c'est vraiment une chance pour notre société parce qu'elle contribue à l'équilibre de l'être. Si nous vivons dans le respect profond et mutuel de la foi de chacun, je pense que c'est possible, déjà. Et que c'est une chance pour nous de vivre librement, en fait, notre foi, mais dans la mesure où on se respecte mutuellement, dans la mesure où cette foi va nous permettre de déployer, en fait, la fraternité, donc la citoyenneté également.
Jacques, vous voulez ajouter un mot?
Oui, c'est la fameuse question de la sphère privée, de la sphère publique de la foi. Doit-on cantonner la foi de chacun dans la seule sphère privée, lui interdisant finalement de s'exprimer dans la sphère publique? Il me semble que ce n'est pas du tout la solution, parce que nous, chrétiens, nous ne pouvons pas faire un distinguo entre notre sphère privée, vivre notre foi tranquillement chez nous, dans notre maison ou dans nos églises, et ne pas l'exprimer, ne pas pouvoir en vivre dans l'espace public. Ce n'est pas possible. Donc je crois qu'il faut quitter cette notion de sphère privée, de sphère publique, pour dire que les religions peuvent, ceux qui vivent leur foi, doivent pouvoir l'exprimer dans la sphère publique. Encore une fois, comme on le disait tout à l'heure, sans brandir des étendards ou sans vouloir imposer des choses, mais en témoignant de ce que nous vivons. Voilà, c'est aussi donner au monde, ça, une espérance dont il a besoin.
Ça contribue aussi à l'unité de l'être. En fait, on est un. On n'est pas, il n'y a pas notre foi d'un côté et puis notre vie publique de l'autre. Nous sommes, chacun est bien unifié dans son cœur.
Au numéro 15e, nos pères évêques écrivent « La rencontre des croyants des différentes religions à laquelle concourt la laïcité de notre société française est une chance pour notre avenir social commun. » Alors, quel risque d'instrumentalisation des religions discernons-nous, Jacques?
Alors, l'instrumentalisation, d'abord peut-être on pourrait définir ce terme. C'est le fait de se servir de quelqu'un ou de quelque chose à des fins personnelles, dans un intérêt personnel, comme d'un simple instrument. Alors il est clair, par exemple, aujourd'hui, que les groupes terroristes tels que Boko Haram, ACMI, Al-Qaïda, Daesh et tous les autres se servent incontestablement de l'islam en l'interprétant faussement et abusivement pour servir leurs propres intérêts qui n'ont rien de religieux. Il en va de même, par exemple, pour des gens comme Vladimir Poutine qui instrumentalise, par exemple, le patriarcat orthodoxe de Moscou dans ses propres intérêts. Mais en France aussi, il en va de même en cette période électorale, lorsque certains candidats se servent, par exemple, de notre religion catholique, alors que leur programme n'a rien de catholique, dans l'unique but de récupérer les voix des catholiques. Ça, c'est de l'instrumentalisation. En fait, ils desservent notre christianisme en prétendant faussement le défendre. Il y a là un vrai risque pour nous qu'il faut impérativement savoir discerner et démasquer. Il faut, je crois, et en résumé, toujours se poser la question de savoir si le programme de ce genre de candidat, qui quelquefois instrumentalise les religions, est cohérent ou pas avec l'Évangile. Si le programme est cohérent avec l'Évangile ou s'il ne l'est pas. Et là, on voit si la religion est instrumentalisé ou pas.
C'est aussi une façon pour... je pense que c'est un manque de respect, en fait, pour les croyants, de se laisser instrumentaliser comme ça, dans la mesure où c'est aussi... ils véhiculent, les politiques, certains politiques véhiculent une fausse idée aussi de Dieu. Donc, personnellement, je suis blessée quand... on va mettre une bombe au nom de Dieu, etc., etc. Voilà.
Comment notre foi au Dieu unique nous ouvre-t-elle à la conviction d'une unique humanité appelée à une destinée commune? Jacques nous écrit en disant comme ceci.
Bernard.
Il y a une humanité dans une grande diversité. La foi au Dieu unique donne hauteur et distance, une vision dans le temps et l'histoire, un destin commun. Notre époque aide peut-être à sentir ces destins communs de l'humanité. L'universalité est une valeur indispensable, très ancrée dans le christianisme. Il est difficile de nier aujourd'hui que l'ensemble de l'humanité a un destin lié. Mais il ne faut pas en rester au plan des idées. Jacques, je ne sais pas, ce point de vue de Bernard, comment vous le trouvez?
Mais pour moi, comment notre foi au Dieu unique nous ouvre-t-elle à la conviction d'une unique humanité, appelée à une destination commune? On peut y répondre en disant que l'humanité est unique. Pourquoi elle est unique? Parce que nous n'avons qu'un seul Père, pour nous, qui avons la foi. Et que nous sommes tous frères, donc nous sommes un seul corps. Et chaque fois qu'un membre de ce corps souffre, c'est le corps entier qui souffre. Et quand on a, par exemple, des migrants qu'on laisse mourir en mer, c'est comme si on nous coupait un pied. Enfin, il me semble que l'humanité, c'est vraiment le corps... c'est le corps du Christ, hein, c'est le corps que nous formons, pour nous chrétiens en tout cas. Voilà quelle serait ma réponse à cette question.
Voilà Chantal, est-ce que vous voulez ajouter un mot?
Je suis d'accord avec Jacques, mais ma réponse est aussi dans le geste sacré du Christ, qui a donné aussi sa vie pour chacun de nous. Il n'a pas dit « je donne ma vie pour les chrétiens, tous les croyants, ceux qui croient en moi ». En fait, le Christ est mort pour chacun de nous, pour tous. Et voilà, ma réponse, c'est ça.
Et il a dit « il n'y a plus ni juif, ni grec, ni croyant, païen, ni incroyant, voilà. Ni homme, ni femme d'ailleurs aussi voilà. ». Donc c'est un tout. Voilà.
On a une seule humanité dans le Christ, une seule fraternité.
Voilà, donc en principe, nous avons subdivisé notre émission ou nos émissions en deux. Là, nous voulons commencer une deuxième partie. Alors, dans la deuxième partie de notre émission, il s'agit de trois titres. Donc, les trois derniers titres pour une écologie authentiquement intégrale et la France n'est pas une île. Et le dernier titre, transmettre. Il s'agit de la transmission. Donc, dans la première émission, nous avons réfléchi sur les quatre premiers titres, choisir de vivre ensemble en paix, le respect inconditionnel de toute vie humaine, promouvoir la liberté, l'égalité et la fraternité et les religions, une chance pour notre société en quête de sens. Et dans cette deuxième émission, nous abordons les trois derniers titres que je viens de citer. Donc, ça correspond au cinquième, sixième et septième titre de l'espérance ne déçoit pas. Donc, pour une écologie intégrale. De plus en plus, on parle de l'écologie. Si nous essayons d'analyser les actualités de ces dernières années, nous pouvons remarquer que le thème de l'écologie intégrale revient très souvent. Pourquoi tant d'insistance sur ce thème? Vous pouvez réagir librement.
Alors, moi, je dirais que la crise climatique nous place devant l'obligation de reconsidérer nos modes de production et de consommation. Là, je crois que nous en sommes tous convaincus. Mais nous, catholiques, nous ajoutons à cela, à cette préoccupation écologique publique, on pourrait dire, que nous devons aussi reconsidérer la place de l'homme, de l'humanité, dans cette transformation qui ne doit pas seulement prendre en compte l'environnement, mais aussi l'humanité, et revoir tout ce qui porte atteinte à l'humanité, tout ce qui blesse cette humanité, en y appliquant les cinq principes du bien commun selon la doctrine sociale de l'Église, qui sont peut-être, est-il important de les rappeler, 1. La destination universelle des biens, ça veut dire que les biens appartiennent à tout le monde et il n'y a pas une partie de l'humanité qui est propriétaire de la terre et l'autre partie qui est esclave. Destination universelle des biens, ça veut dire que l'homme, tout homme, est propriétaire en quelque sorte de la totalité des biens. Et nul n'en est propriétaire. Nous en sommes tous les gérants. Premier principe. Deuxième principe, l'option préférentielle pour les plus pauvres. On l'a déjà vu dans la précédente émission. Ça veut dire que si on commence par servir les plus pauvres, on est sûr de n'oublier personne. Troisième principe, la subsidiarité. La subsidiarité, c'est le principe de laisser, de faire de la place et de laisser les institutions ou les personnes faire ce qu'elles peuvent faire en leur fournissant les moyens de le faire. Quatrième principe, la participation de tous. La participation de tous, ça veut dire qu'on laisse faire à chacun, qui est le mieux à même de connaître ses besoins, ce qu'il doit faire. Et enfin, le dernier principe, la solidarité, c'est le tous responsable de tous. Nous devons tous être solidaires. Quand un membre souffre, c'est la totalité de l'humanité qui souffre. Voilà donc c'est le rappel de ces principes de bien commun qui peut, disons-le, constituer ce qu'on appelle l'écologie intégrale.